Bonsoir. Arrivera-t-on à se guérir de ce cancer, à l'éradiquer? La corruption qui ronge nos sociétés, nos entreprises, nos pays. Oui, elle est partout, cette corruption dans le monde. Et la France, elle n'est pas épargnée. 23e au classement mondial, Transparency International. Et on voit donc la France hein, qui se dote d'un arsenal de plus en plus serré. Est-il efficace? Est-il suffisant? À voir. On voit les grosses entreprises qui sont mises à contribution, qui doivent se mettre d'équerre. Alors, arrivera-t-on à vaincre la corruption en France? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
C'est vrai que quotidiennement, on vous parle de corruption, que ce soit en France, hein, qui touche des entreprises plus ou moins grosses, à l'étranger, bien sûr. Regardez ce qui se passe en Espagne, par exemple, avec cette affaire qui éclabousse le Parti Populaire qui se trouve au pouvoir. La lutte contre la corruption aussi au cœur de la plateforme de gouvernement, ce qu'il en reste en Italie, et puis au sein aussi de la campagne électorale en Colombie. On voit, elle est partout, cette corruption, et notamment donc en France, je vous le disais. On va en parler avec Charles Duchesne. Charles Duchesne, c'est le directeur général de l'Agence française anticorruption, toute nouvelle agence créée il y a un an à peine. L'avocat Christian Dargham, avocat au barreau de Paris, associé dans le grand cabinet britannique Norton Rose Fulbright. Pierre-Antoine Badoz, qui est directeur de la conformité dans le groupe Orange. C'est bien aussi d'entendre une entreprise justement montrer quel dispositif est bien mis en place. Et puis Lorraine Bounot, la déléguée générale de l'ONG Transparency International, dont je vous parlais il y a un instant. Alors, Charles Duchesne, qui est avec nous. Un parcours exceptionnel, hein, spécialisé depuis toujours dans la lutte contre la délinquance économique, ce soit en Corse, ce soit à Marseille, ce soit la Principauté de Monaco, et donc depuis maintenant un an à la tête de cette agence française anticorruption, l'AFA. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, Charles Duchesne? Quelles sont vos principales missions?
La mission qui nous est confiée par la loi est une mission générale d'aide et d'assistance à toute personne en matière de prévention et de détection de la corruption. Ça, c'est la philosophie, j'allais dire, de la création de l'agence. Plus concrètement, nos missions sont des missions de conseil et des missions de contrôle. Nous conseillons les acteurs publics et les acteurs économiques, certains ayant des obligations à cet égard, quant à la mise en œuvre de dispositifs préventifs en matière de corruption, de trafic d'influence. Et puis, dans un second temps, nous contrôlons la réalité et surtout l'effectivité de ces dispositifs. Et si ces dispositifs ne sont pas en place ou ne sont pas pertinents, je peux, puisque c'est un pouvoir propre du directeur, saisir une commission des sanctions, qui est une instance qui se réunit au sein de notre agence, en vue de poursuivre les entreprises et qui peuvent se voir infliger des sanctions pécuniaires ou des injonctions de se soumettre à un programme de conformité sous notre contrôle.
Alors, aide, assistance, conseil, on voit beaucoup plus une mission de prévention plutôt que de répression, à la différence par exemple du parquet national financier, par exemple, je prends cet exemple-là. Hein.
Oui, alors en effet, nous, on est dans un rôle préventif et nous n'avons pas de fonction de police judiciaire, nous n'avons pas de fonction répressive, c'est l'apanage des parquets, parquet national financier, mais également de tous les parquets territoriaux puisqu'il s'agit d'une compétence concurrente. Mais dans la mesure où la loi, et c'est une spécificité de notre système, a érigé le système préventif comme une obligation, en tout cas pour les plus grandes entreprises, celles qui ont au moins 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, eh bien naturellement, s'agissant d'une obligation légale, il faut que cette obligation soit contrôlée, et si en cas de contrôle cette obligation n'est pas satisfaite, il y a des sanctions, mais ce sont des sanctions administratives qui sont encourues et qui ne sont évidemment pas exclusives de sanctions pénales si des faits de corruption consommés sont constatés à l'occasion de nos contrôles.
Ça concerne à peu près 1600 entreprises en France. Vous êtes rattaché à Bercy et à la justice en même temps. Vous êtes indépendant vraiment en étant rattaché à ces deux ministères?
Alors, il y a eu tout un débat au moment de l'adoption de cette loi sur le statut qu'il convenait, le statut juridique qu'il convenait de donner à notre service. Certains, et ils avaient sans doute juridiquement assez raison, voulaient en faire une autorité administrative indépendante, d'autres voulaient en faire un service à compétence nationale. Finalement, c'est un service à compétence nationale. Le motif mis en avant était essentiellement celui que nous avons des missions à l'international, qui sont des missions régaliennes, et qu'on ne pouvait pas déléguer des missions régaliennes à une autorité administrative indépendante. Je ne sais pas si ce que l'on doit en penser, c'est en tout cas la réalité. Ce que je peux vous dire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que je crois que l'indépendance résulte davantage de la personnalité des hommes que de la nature juridique du service.
Bien. Alors, quel est l'état des lieux ? Lorraine Bounot, déléguée générale de Transparency International, donc en France. La France, c'est la corruption. Je le disais tout à l'heure en préambule, on est 23e, donc, dans un classement mondial, avec dans les premières places des pays tels que la Nouvelle-Zélande, les pays scandinaves, et puis évidemment en fond de tableau la Corée du Nord, l'Afghanistan, enfin des pays qu'on peut tout à fait imaginer. La France, ça veut dire quoi ? C'est un pays corrompu ? La France n'est pas très très bien classée. Quand on voit 23e, je m'attendais à mieux.
Ça, c'est un indice de perception de la corruption, voilà. Parce que par nature, la corruption est quelque chose d'opaque, qu'il est difficilement mesurable. Mais la France, non, on peut pas parler véritablement de corruption systémique. Alors, en revanche, on est effectivement loin derrière certaines grandes démocraties que vous mentionniez. L'Allemagne, le Danemark, la Finlande.
Les pays d'Europe du Nord,
aussi. Voilà, le Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait quand même un retard important à combler ces dernières années, et que de l'électrochoc Cahuzac de 2013...
Et ce qui a conduit notamment à un certain nombre de créations d'instances, notamment la Haute Autorité de la Transparence dans la vie politique, l'agence que préside Monsieur Duchesne, hein, par exemple.
Le Parquet National Financier,
tout à fait,
et la mise en place de mesures préventives, mais aussi de le renforcement de sanctions contre la corruption, contre la délinquance économique et financière, et aussi un changement de pratique de beaucoup d'acteurs qui sont concernés. On a, par exemple, vous citiez la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, on a 18 000 décideurs publics qui doivent lui transmettre des déclarations d'intérêt, pour certains une part plus petite, des déclarations de patrimoine. Certaines de ces déclarations font l'objet de mesures de publicité, donc il y avait aussi une volonté ces dernières années de renforcer la transparence, et notamment au regard des citoyens, puisque c'est pas uniquement un enjeu finalement économique. La corruption, elle n'a pas que des conséquences économiques ou des conséquences financières, que ce soit pour les entreprises ou pour les États, par ailleurs, mais elle a aussi des conséquences démocratiques, de perte de confiance dans les acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés. Et les entreprises sont aussi concernées.
Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Parce que quand on parle de corruption, déjà, tiens, comment on la définit, Christian Dargham, vous avocat au barreau de Paris, c'est quoi ? Parce que j'ai l'impression que ça recouvre quand même pas mal d'acceptions entre les pots de vin, les prises illégales d'intérêt, abus de biens sociaux. Enfin, qu'est-ce que vous mettez dans le... quand on parle de corruption, c'est quoi ?
Alors, quand on parle de corruption, vous avez les législations nationales qui vont définir la corruption. Donc, chaque loi va définir la corruption dans un pays X. Mais vu du côté des entreprises, en tout cas, quand nous conseillons les entreprises, c'est vu de façon globale. La corruption, c'est tout acte, en quelque sorte, tout avantage qui est donné à quelqu'un pour que cette personne-là prenne une décision qu'elle ne doit pas prendre ou s'abstienne de prendre une décision qu'elle doit prendre. Un exemple, tout le monde a en tête des valises de cash. Évidemment, ça existe encore. Mais juste pour vous montrer l'évolution culturelle, jusqu'à la fin des années 90, ce qu'on appelle aujourd'hui des pots de vin n'était pas nécessairement puni pénalement. On pouvait aller à Bercy pour en obtenir la déduction fiscale. Et aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, les autorités américaines ont poursuivi et transigé avec deux grandes banques internationales parce que ces banques avaient embauché ou avaient proposé des stages à des proches de dirigeants de fonds souverains chinois en contrepartie ou en tout cas dans l'espoir d'obtenir du business derrière. Donc culturellement, proposer un stage à quelqu'un en contrepartie ou dans l'objectif ou dans la perspective d'obtenir du business, c'est de la corruption.
On voit, c'est extrêmement vaste. Hein, Pierre-Antoine Badaud, directeur de la conformité dans le groupe Orange, c'est-à-dire bon, le monsieur anticorruption, voilà, pour simplifier, donc dans ce grand groupe de télécom. Et c'est vrai, quand on écoute Christian Dargham, ce que nous appelons corruption n'est peut-être pas forcément appelé corruption ailleurs, et vice-versa, etc. C'est extrêmement difficile donc à définir parfois, de fixer les contours.
C'est difficile, mais comme le soulignait Maître Dargham, c'est donner quelque chose en échange d'une décision ou d'une absence de décision. Et donc c'est une définition qui nous va bien, et pour nous, chez Orange, alors on n'a pas attendu la loi Sapin 2, la création de l'Agence française anticorruption, on est présent à l'international, on est présent en fait dans le monde entier, et donc on est soumis à des législations qui étaient bien antérieures, et donc on a déployé un programme de prévention de la corruption dès le début des années 2000, parce que la corruption, c'est un cancer, vous le soulignez, ça détruit la confiance, ça détruit le lien social. Or, Orange a l'ambition d'être un opérateur de confiance.
Tout juste. Alors, ça se traduit comment concrètement, avant qu'on voit tous les filets que vous avez mis en place, et puis Charles Duchesne nous expliquera justement maintenant à quoi sont tenues les différentes entreprises, les grosses entreprises dont il parlait. À quel risque on est exposé quand on fait du business, parce que je le disais, Orange est présent dans le monde entier, ou quasiment le monde entier. Vous êtes souvent approché, vous êtes souvent convoité, sollicité. C'est difficile de dire non quand il y a des sollicitations. Racontez-nous au quotidien ce qui se passe, justement.
Alors, nous avons la chance que l'essentiel de notre activité commerciale, c'est ce qu'on appelle du B2C, du grand public. Et donc, on ne commet pas d'actes de corruption pour faire venir un client dans notre boutique et lui vendre un abonnement.
Mais vous installez des réseaux, vous installez bien sûr, vous mettez de la fibre, du câble, etc., de l'internet.
On a besoin d'une licence de télécom pour opérer. Certains opérateurs se sont fait condamner pour avoir payé des pots de vin pour obtenir une licence. Donc oui, il y a énormément d'activités opérationnelles ou dans l'activité auprès des entreprises, quand on vend auprès des entreprises ou des collectivités territoriales des services télécoms, il y a des risques. Et puis la corruption, c'est aussi dans les deux sens. Il y a ce qu'on appelle la corruption passive. Orange achète des produits, des équipements techniques, et les acheteurs, les décideurs, les influenceurs de la décision pourraient éventuellement être soumis à des tentations, à des tentatives de corruption par des fournisseurs.
Charles Duchesne, quand on parle de corruption, il y a quelqu'un qui corrompt, il y a quelqu'un qui est corrompu, justement. Quand on parle de corruption en France, qui corrompt, qui est corrompu? Alors, les entreprises sont victimes, elles sont complices. Il y a la corruption en France, il y a la corruption maintenant de l'étranger qui vise les entreprises françaises. Et Pierre-Antoine Badoz nous en parlait tout de suite au nom d'Orange. Il y a des collectivités locales. Bon, dans votre précédente vie, quand vous étiez à Marseille, vous avez été amené à sévir contre Monsieur Guérini, le président du conseil départemental, dans des malversations financières, etc. Bon, on revient pas sur son cas, mais je veux dire, est-ce que c'est plus répandu que prévu, que ce que l'on sait, etc. C'est quoi, quand on parle de corruption en France, qui sont les acteurs?
Alors écoutez, quand on lutte contre quelque chose, que ce soit la corruption ou n'importe quoi d'autre, on aimerait bien pouvoir définir la nature et la force de l'adversaire, si vous voulez. Alors, la difficulté en matière de lutte contre la corruption, c'est que la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle parce que le seul indicateur sérieux dont on dispose, c'est le niveau des sanctions pénales. Parce que par définition, quand il n'y a pas de sanctions, on peut considérer, sauf à remettre en cause le rôle de la justice, que la corruption n'était pas constituée. Donc le seul indicateur véritable, c'est celui-là. Il est forcément très insuffisant parce que, comme il a été dit tout à l'heure, ce sont des infractions occultes, clandestines, sournoises, et les gens viennent pas se vanter d'avoir fait de la corruption. Encore que, parliez du Sud, il y en a qui ont parfois cette propension. Mais c'est très difficile à mesurer, et donc on ne peut effectivement que ressentir. Alors entre le tous pourri et il n'y a pas de ça chez nous, monsieur, si vous voulez, il faut trouver un juste milieu, et ce juste milieu, on n'y est pas arrivé. La seule chose qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'elle existe, mais qu'elle existe en France sous des formes un peu particulières. Elle existe dans les sphères du pouvoir, pouvoir économique ou pouvoir politique, souvent les deux en même temps d'ailleurs, puisque la corruption naît, j'allais dire, dans une relation fautive entre le public et le privé, souvent dans une mauvaise, dans une triste confusion, j'allais dire, entre le pouvoir et l'argent, si vous voulez. C'est là que ça naît. On n'est pas véritablement confronté en France à une corruption du quotidien comme on peut la vivre dans certains pays. En Europe, d'ailleurs.
Avec un petit billet donné.
Voilà, c'est ça, où on s'arrange avec le contrôleur pour éviter l'amende. Et, lui, il vous fait pas payer le billet, il vous fait remettre.
C'est pas ce niveau, a priori, en France.
Il y en a, mais je dis pas que ça n'existe pas, ça existe probablement. Moi, dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé dans certains pays, ça ne m'est jamais arrivé en France. Et je ne crois pas que ce soit la corruption qui nous préoccupe. Pour autant, ce type de corruption pourrait se développer chez nous, et pourrait se développer avec la paupérisation de la société. C'est le genre de phénomène qui peut facilement se développer.
C'est une vraie crainte, ça, que vous avez, en effet? Qu'on arrive à des pratiques, comme on voit dans certains pays, du tiers-monde, on n'appelle plus ça le tiers-monde, mais des pays en développement où...
C'est un risque, si vous voulez. C'est un risque. Je pense que c'est pour ça qu'il faut être très strict sur cette question-là. Mais je pense que le vrai visage de la corruption en France, il ne se situe pas là. Alors, il se situe évidemment...
C'est quoi le vrai visage de la corruption en France?
C'est plutôt, pour ce qui est de mon expérience, moi je ne peux parler que de ce que
bien
je connais.
C'est pour ça que vous êtes là ce soir.
C'est, si vous voulez, la nécessité parfois de trouver des fonds. C'est par exemple ce qui est lié au financement des partis politiques. C'est très tentant pour les partis politiques, ça l'a été en tout cas à une époque, très tentant d'aller rechercher des fonds ailleurs pour pouvoir financer des campagnes, pour pouvoir financer... C'est plus souvent la corruption comme ça, un petit peu...
Ça existe encore malgré tous les filets qui ont été mis en place depuis les années 80, les affaires Urba, les affaires de la mairie de Paris du temps du RPR
Je ne me permettrai pas de dire si ça existe aujourd'hui. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis retiré des affaires, si vous voulez. Ce que je peux vous dire...
Vous êtes retiré des affaires, vous êtes quand même à la tête de l'agence française
anticorruption. Je suis retiré des affaires pénales.
Affaires pénales, oui.
Jusqu'en 2014, moi j'ai vu dans des dossiers des comportements de corruption qui étaient souvent inspirés par une volonté d'enrichissement personnel, mais aussi très souvent inspiré par une volonté de financer un certain nombre d'actions, des campagnes, des meetings, des choses comme ça. Ouais. Et si vous voulez, à défaut de pouvoir trouver l'argent, ou surtout de pouvoir le sortir sans que ça se voit, eh bien, on le faisait par des canaux et par des flux financiers détournés de l'entreprise. Voilà. Après, vous parliez de pays autres où la corruption est un peu plus endémique. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que si vous voulez, on voudrait respecter une règle du jeu dans un jeu où il n'y a pas de règle. Et c'est là que ça devient un peu compliqué.
Ouais. Tiens, justement, dans le monde, juste, j'ouvre une parenthèse, Lorraine Bounot, donc, à la tête de Transparency International en France, on dit qu'il y a plus de 6 milliards d'habitants dans le monde qui vivent dans des pays avec des graves problèmes de corruption. Bon, alors oui, il y a le Soudan, il y a l'Afghanistan, la Corée du Nord, le Sud-Soudan, la Somalie, très bien. Ça va mieux ou pas?
Mais je crois qu'on n'est même pas obligé d'aller aussi loin, finalement, si on regarde l'Europe. Et la dégradation notamment de l'état de droit dans certains pays en Europe de l'Est.
Par exemple la Hongrie, la Pologne.
On peut craindre qu'effectivement dans ces pays-là où notamment bon l'indice de perception de la corruption donc le ressenti, le vécu de ceux qui sont interrogés puisse s'aggraver finalement. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller aussi loin.
Christian Dargham, comment est-ce qu'on a connaissance des affaires de corruption? C'est quoi? Il y a des dénonciations d'entreprises qui ont été évincées. Comment ces affaires, elles apparaissent au public?
Il y a plusieurs canaux. Ce sont soit des journalistes ou des ONG qui travaillent.
Bien sûr,
ça peut être l'entreprise elle-même de plus en plus. Parce que la culture de l'autosignalement aux autorités, c'est une culture qui se développe. Donc c'est l'entreprise, à l'occasion d'un audit par exemple, qui va s'autosignaler aux autorités pour essayer d'avoir une peine ou pour essayer de transiger, donc avec une amende plus clémente et des conditions plus clémentes.
Une convention judiciaire, clairement. Ouais.
Tout à fait. Et ça peut être, et ça c'est l'élément clé qui a changé ces dernières années, ce sont les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont, comme M. Duchesne le disait tout à l'heure, quand vous avez un corrompu, un corrupteur, ça reste quand même, ce sont des infractions occultes. Donc c'était difficile de découvrir ça. Et là, quand vous avez une personne mécontente qui sort de l'entreprise, qui va dénoncer ça, dans certains pays aux États-Unis, vous avez des récompenses des lanceurs d'alerte. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions de dollars. Il y a quelqu'un qui a eu, en 2014, je crois, plus de 30 millions de dollars versés par les autorités américaines. Et là, au mois d'avril, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu plus d'un million de dollars de récompenses. Donc les lanceurs d'alerte font apparaître des actes de corruption.
Vous comptez beaucoup là-dessus, Charles Duchesne, vous à la tête de l'Agence française anticorruption.
Nous, on compte beaucoup sur un changement de mentalité et sur ce que les Américains appellent le self-reporting. Je pense qu'il faudra qu'à un moment, les entreprises comprennent qu'il peut être de leur intérêt de solder un passif corruptif et de venir se confesser. Si vous voulez, les sources de révélation de la corruption, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a l'investigation, il y a la dénonciation et il y a la confession. Hein. Et il faut choisir entre ces modes-là. Les lanceurs d'alerte... Il y en a, mais il n'y en aura jamais beaucoup parce que ça comporte un certain nombre de risques. Et en France, les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés.
Il faudrait les rémunérer ou pas?
Écoutez, moi je crois qu'à un moment, il faudrait rompre avec certaines idées qui nous sont inspirées d'une histoire déjà ancienne. Ouais. Je fais allusion, vous savez, au régime de Vichy.
Au nom de cette période historique,
finalement, on s'interdit tout.
On s'interdit tout.
Je trouve que c'est quand même un petit peu regrettable. C'est un peu regrettable parce qu'aujourd'hui, un lanceur d'alerte, il aura peut-être intérêt, ou en tout cas la tentation, d'aller vendre son alerte aux Américains plutôt que de la vendre aux Français, et on s'interrogera toujours pour savoir pourquoi on est à la traîne.
Pierre-Antoine Badoz, directeur de la conformité du groupe Orange, les lanceurs d'alerte, leur rôle, ces lanceurs d'alerte, il faut leur redonner un petit peu plus de pouvoir, vous les craignez vous aussi? C'est quoi votre regard sur ces lanceurs d'alerte quand on est dans une grosse entreprise mondiale comme Orange?
Au contraire, c'est un outil de lutte et de prévention contre la corruption. Parce que vous ne savez pas nécessairement tout ce qui se passe, et il est important. Et chez Orange, nous incitons les salariés à reporter de manière confidentielle, voire anonyme s'ils le souhaitent, des violations de notre code de conduite, des actes de corruption ou des fraudes. Une alerte qui arrive, à ce moment-là, est analysée. Et si effectivement il y a des éléments sérieux, une investigation à ce moment-là est lancée pour établir ou pas la réalité des faits.
Et vous voyez régulièrement des affaires comme ça qui vous sont communiquées par des collaborateurs en disant « j'ai entendu parler de ci » ou « j'ai été témoin de ça ». Ça, ça arrive ou pas ?
Ça arrive. Ouais. Et depuis bientôt 4 ans que je m'occupe de ce sujet-là, ça m'arrive un peu plus souvent.
Ah oui.
Parce que je
pense qu'il y a plus d'affaires ou parce que les langues se délient?
Non, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ont confiance.
Oui.
Parce que comme le souligne Monsieur Duchesne, lancer une alerte, c'est pas facile. Ça peut comporter des risques.
Bien sûr.
Et puis il faut qu'on ait confiance qu'il va se passer quelque chose derrière.
Donc d'ailleurs une investigation. Vous-même, vous avez une sorte de service d'enquête interne chez Orange, par exemple, qui va regarder si ce qu'on vous remonte est vrai, et ensuite, éventuellement, en tirer les conséquences.
Absolument.
Comment ça fonctionne?
On a des équipes spécialisées.
Dédiées, des enquêteurs, un peu.
Absolument.
Comme ceux qu'a M. Duchesne à l'AFA.
Qui mènent des investigations en France ou à l'étranger. Ouais. Parce que on a, alors ça peut être une alerte, mais ça peut être aussi à l'occasion d'un contrôle, d'un audit, qu'on détecte quelque chose qui n'est pas conforme. Et donc, il faut aller creuser. Et on a des équipes qui vont creuser, justement.
Et le principe, ce que vous mettez en avant, c'est tolérance zéro.
Absolument. Donc,
pas de
ça, c'est la base. Hein. Il faut afficher ce message qui doit être porté par notre président, qui est porté par notre président, par l'ensemble du management.
Et la lutte anticorruption, elle doit être portée par qui, principalement? Vous dites par le grand PDG, par Monsieur Richard. Voilà.
Absolument. Hein. Mais pas seulement par Stéphane Richard, par chaque membre du comité exécutif et par tous les niveaux de management. Et cette tolérance zéro, elle doit être affirmée, répétée, pour que tous les salariés dans le groupe, où qu'ils soient dans le monde, soient bien convaincus que chez Orange, c'est vraiment la tolérance zéro. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que cette tolérance zéro, elle soit effectivement mise en œuvre.
Et tolérance zéro, c'est quoi, par exemple? Il y a un catalogue où on dit, voilà, il y a certains cadeaux qui, à partir de maintenant, sont interdits, des voyages, des invitations, vous quantifiez en disant, voilà, les cadeaux au-dessus de, je vais dire une bêtise, 96€, c'est fini, les voyages au-delà de 100 km, c'est fini. C'est quoi, ça va jusqu'où, justement, cette politique anticorruption au sein d'une grosse entreprise?
Alors, il y a plusieurs procédures, dont les cadeaux. Ça, c'est important parce que il y a cadeaux et cadeaux. Cadeaux, ça peut faire partie de la vie normale des entreprises. Mais dès qu'un cadeau est donné pour influencer une décision, on n'est plus dans le cadeau, mais on commence à être dans la zone grise, voire carrément dans la zone noire de la corruption.
Faut le prouver, faut le montrer. C'est pas toujours évident.
Il y a une politique, il y a des seuils. Alors, chez Orange, le seuil, c'est 150€.
À 150, d'accord.
Mais pour l'année.
Oh, d'accord. Ah oui, pas d'un seul coup. Ouais.
C'est 150
ouais,
euros.
D'accord.
Et donc, voilà, il faut que ça soit clair et que cette politique soit connue. Pour que, voilà, donc on reste de l'ordre du symbolique pour éviter ce point.
Et ça, vous avez l'impression que tout le monde est sensibilisé à ça et formé à ça, justement?
Alors, ça fait partie aussi de mon travail, du travail de mon équipe, c'est effectivement de sensibiliser l'ensemble des équipes managériales, partout. Comme toujours, cette sensibilisation, ça prend du temps, il faut sans arrêt remettre l'ouvrage sur le métier pour expliquer les risques, expliquer le contexte. Le contexte a changé. Certains peuvent dire, oui, mais avant c'était avant. Aujourd'hui, c'est différent.
Qu'est-ce qui a fait que ça a changé d'un seul coup? Ouais. Charles Duchesne ou Pierre-Antoine Badaud, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'est quoi le... On sait que, par exemple, pour la vie politique, il y a eu l'affaire Cahuzac. Très bien. Dans la vie des entreprises, c'est quoi? Qu'est-ce qui, à un moment, a dit, allez, tout le monde, maintenant, tout le monde se réveille?
Ça a été les sanctions imposées aux entreprises pour des affaires de corruption.
Ouais.
Les sanctions qui ont d'abord été imposées par les autorités américaines.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Notamment.
Le droit.
Voilà. Donc ça, c'est important. Et ça, ça a fait bouger les lignes. Ça a amené à la loi Sapin 2. Et, à ce changement de paradigme.
Ouais. On le voit avec l'affaire, notamment des sanctions autour de l'Iran. Le droit, c'est une arme. Les États-Unis n'hésitent pas à s'en servir. Charles Duchesne. Le droit, maintenant, il faut que les entreprises, elles soient d'équerre à tout point de vue, d'un point de vue moral et d'un point de vue de régularité. C'est-à-dire, là-dessus, des pays concurrents ne vont pas hésiter à dire, tiens, vous avez enfreint le droit, grosse amende, et vous êtes exclu. C'est un peu ça aussi.
Oui, il y a le droit, puis il y a un rapport de force aussi, si vous voulez, très au-delà du droit. Je crois qu'on est plutôt dans un rapport de force. Je crois qu'on est passé d'un système, si vous voulez, qui était franco-français, dans lequel certains considéraient que finalement la corruption, c'était de l'huile nécessaire pour redresser les rouages, que c'était quelque chose de bien, et que finalement s'attaquer à la corruption, quelque part, c'était assez mal vu, parce que c'était s'attaquer à l'activité des entreprises, etc. Aujourd'hui...
Oui, mais pardon, mais c'est pas, ça peut être difficile quand même de dire non quand il y a des, quand il y a un contrat à la clé quand même. Que comment on fait justement? Une entreprise, mais... voilà, elle va convoiter un énorme marché en Afrique, en Asie, et puis on lui dit, ben tiens, il y aura peut-être...
Non, mais si vous voulez, au plan national, ça pose pas de problème, parce que la règle est la même pour tous. Donc ceux qui l'enfreignent s'exposent à des sanctions, et c'est tant mieux. C'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est plus compliqué à l'extérieur, où, comme je vous le disais tout à l'heure, on demande et on souhaite, et je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord là-dessus. C'est un sujet qui est assez consensuel, finalement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle très ouvertement. Il y a vraiment pas de secret dans ce domaine-là. On a bien compris qu'il fallait que des règles identiques, uniformes, soient instaurées et que tout le monde les respecte. C'est très compliqué dans certains pays, parce qu'il y en a qui jouent le jeu et d'autres qui ne le jouent pas. Alors c'est vrai que les condamnations étrangères, et notamment américaines, ont été un élément révélateur et tout à fait déterminant. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tout le monde se comporte de la même manière, que tout le monde applique les mêmes règles, que tout le monde respecte les mêmes règles du jeu et que ces conflits soient réglés collectivement.
Bon, on va voir dans un instant, justement, est-ce qu'on peut éradiquer, vaincre cette corruption. On va retrouver les décodeurs de l'écho passionnants, Transparency International, Orange, l'avocat Christian Dargam, et puis le patron de l'agence française anticorruption. On va les retrouver dans un instant, à tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Est-ce qu'on peut vaincre la corruption en France, notamment? On est toujours avec le directeur de l'Agence française anticorruption, l'ancien magistrat Charles Duchesne, l'avocat Christian Dargam est avec nous, Pierre-Antoine Badoz de chez Orange et Lorraine Bounot, la déléguée générale de Transparency International. Christian Dargam, vous, avocat associé chez Norton Rose Fulbright, donc vous avez une vision évidemment internationale. Ce que nous disait Charles Duchesne, oui, en France, bon, les règles, elles vont être appliquées par tous, dans les entreprises, bien entendu, pour essayer de conquérir des marchés, justement, concourir à des contrats. Mais les règles sont pas toujours les mêmes quand on est à l'étranger, parce que certains se plient à la réglementation et d'autres s'en affranchissent. Comment on fait, justement, dans ce cas-là? Pour une entreprise, difficile quand même, hein, si elle veut signer un méga contrat de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros.
C'est très difficile et c'est un débat que beaucoup d'entreprises ont en interne en disant si on ne prend pas ce marché-là, on va devoir mettre des gens au chômage par exemple. Mais malgré tout, il faut quand même respecter la règle. Même si des entreprises concurrentes qui viennent de pays qui n'ont pas ce type de loi peuvent, elles, ne pas respecter ces règles-là, mais les entreprises, en tout cas les entreprises françaises, doivent respecter la loi, qu'elles soient en France ou qu'elles soient à l'étranger, parce que la loi française, elles peuvent tomber sous la coupe de la loi française, mais également d'autres lois, notamment américaines, anglaises, brésiliennes, chinoises, donc de plus en plus de lois. Donc la règle doit être la même pour tous. En pratique, elle ne l'est pas, mais en tout cas, les entreprises françaises, elles, ont l'obligation, sous peine d'avoir des sanctions, et sous peine aussi, et j'insiste sur ce point-là, parce qu'il y a le côté coercitif, et puis il y a aussi les attentes, l'aspect culturel dont on parlait tout à l'heure. Les investisseurs, ils attendent d'investir dans des entreprises propres. Les salariés, les clients, les financements bancaires, maintenant, dans les financements bancaires, vous avez des clauses très strictes de respect de la compliance. Les opinions publiques, quand on regarde...
Problème d'image pour les entreprises,
oui,
bien sûr.
Quand on regarde ces 2-3 dernières années, au Brésil, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, plus récemment à l'île Maurice, au Guatemala, beaucoup de gouvernants ont été chassés du pouvoir pour des affaires de corruption, et ça, du coup, ça met une pression sur les gouvernants pour lutter dans la mesure du possible contre la corruption.
Mais j'en reviens, parce que vous êtes donc associé dans un grand cabinet anglo-saxon. Les États-Unis, quand même, donnent le la, comme un petit peu partout, et on se souvient de l'affaire iranienne, bien sûr, avec le ministre de l'économie et des finances qui disait, bon, c'est pas aux Américains, finalement, de décréter le droit. Il montre quand même le chemin ou pas, les États-Unis? Il y a eu un avant et un après ou pas?
Alors, en tout cas, les États-Unis, jusqu'à une période récente, prenons l'exemple de la France, jusqu'à la création de l'AFA et la loi Sapin 2, la France était accusée de ne rien faire en matière de corruption.
Elle était critiquée par les ONG. Donc ça, c'est très récemment, cette loi Sapin 2, elle a été prise.
Très récemment, et donc les Américains disaient, dans tous les forums, écoutez, vous ne faites pas le ménage chez vous, nos entreprises sont soumises à des lois très strictes, il n'y a aucune raison que vos entreprises aillent faire les voyous dans tel ou tel pays. Donc, vous ne faites pas le ménage, nous le faisons à votre place. Donc, c'était ça le discours, avec bien entendu des arrière-pensées économiques parfois.
Évidemment.
Mais c'est vrai que le discours était difficilement contestable.
Alors, justement, Charles Duchesne, cette loi maintenant, la nouvelle réglementation, à quoi sont tenues les entreprises? Vous parliez d'entreprises en fait d'au moins 500 salariés, un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, qui sont tenues de se conformer à de nouvelles dispositions pour mettre en place des plans anticorruption. Qu'est-ce qui prévoit ce code anticorruption? Comment les entreprises, elles, se sont conformées à cette disposition? Et vous, quel est votre rôle, l'Agence française anticorruption?
Alors, les obligations des entreprises, donc de la taille de celles que vous venez d'évoquer, les deux critères d'ailleurs de chiffre d'affaires et de nombre de salariés étant cumulatifs, sont soumises donc aux dispositions de l'article 17 de la loi qui énumère 8 obligations. Alors j'espère ne pas en oublier une.
Faites pas le catalogue non plus.
En un mot, principalement, c'est l'établissement d'une cartographie des risques, c'est-à-dire que l'entreprise doit identifier quels sont ses risques métiers finalement. Elle est la mieux placée pour le faire parce que, en fonction de la nature de l'activité, du secteur d'activité et du secteur géographique d'exercice de cette activité, eh bien ces risques changent, ces risques sont différents. Elle doit élaborer un code de conduite intégré au règlement intérieur. Elle doit se livrer à une évaluation de ses clients, de ses fournisseurs, de ses intermédiaires. Elle doit assurer la mise en œuvre d'une formation de ses agents, de ses cadres les plus exposés. Elle doit mettre en place un système d'alerte interne, des sanctions en cas de violation des règles disciplinaires, etc.
Et ça, les entreprises le font de bon gré ou est-ce qu'elles tergiversent en se disant ce sont encore une fois des contraintes qui nous sont mises, on n'arrive pas à grossir, à respirer, etc. Et encore une fois, on nous fait de la réglementation. Parce que tout ça s'accompagne de contrôle que vous-même vous diligentez, vous, Charles Duchesne, avec cette agence.
Alors, tout ça s'accompagne de contrôle, mais malheureusement, nous n'avons pas les capacités de contrôler tout le monde. Donc, si vous voulez...
Vous avez quoi, 70 personnes à l'agence?
Non. Nous en avons actuellement 60, si vous voulez. Il y en a une trentaine qui sont dédiées au contrôle. Et nous avons environ des milliers et des milliers d'acteurs publics à contrôler.
Si on
a une approche à travers le groupe, on a au moins 1700 entreprises à contrôler. Et je ne vous parle pas... Mission impossible. Je ne pense pas que le but, ça soit de contrôler tout le monde. Le but, c'est de faire des contrôles, mais ce n'est pas de contrôler tout le monde. Donc, nous opérons ces contrôles. Les entreprises, d'une manière générale, sont assez dociles d'une certaine manière. Elles essaient d'appliquer la loi, même si ça leur pose évidemment des contraintes en personnel, des contraintes financières. Ça ne se fait pas en un jour, c'est lourd, c'est coûteux, c'est même très coûteux. C'est un investissement nécessaire pour toutes celles qui travaillent à l'international également, parce que si vous voulez, les contrôles qu'opère la France, les étrangers les opèrent aussi.
De la même façon.
Et finalement, se conformer aux dispositions,
de
la loi française, c'est aussi se mettre à l'abri des reproches qui pourraient vous être adressés par des législations étrangères.
Pierre-Antoine Badoz, vous le disiez tout à l'heure, vous chez Orange, vous n'avez pas attendu justement la loi Sapin 2 et donc la création de cette agence. Ça a été difficile de mettre ça en place justement en personnel, en moyens humains, en moyens financiers également, pour convaincre également, parce que ça fait quand même, on empile des réglementations.
Alors, on l'a mis en place d'abord parce que c'est un risque et l'entreprise est habituée à manager des risques. Le risque de corruption, c'est un risque croissant pour les entreprises. Croissant parce que, notamment, les sanctions augmentent. Et donc, manager les risques, ça fait partie du travail de l'entreprise. Et donc, ces procédures font partie de l'outil. L'évaluation des partenaires, c'est important parce que la corruption, aujourd'hui, ça ne se passe plus directement. Ça passe par des intermédiaires. Et donc, quand on a un intermédiaire, il faut savoir à qui on a affaire. Et avant de contractualiser, eh bien, il faut regardez le risque, parce que si cet intermédiaire commet un acte de corruption pour le compte de l'entreprise, eh bien c'est l'entreprise qui va être responsable. Donc, c'est une évidence, il faut le faire, c'est un investissement.
Lorraine Bounot, déléguée générale de Transparency International.
Oui, on a changé finalement les pratiques de milliers de personnes, de milliers d'entreprises, puisqu'elles ont maintenant l'obligation de mettre en place un programme de conformité que M. Duchesne rappelait. je crois qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut dépasser l'enjeu de simple conformité. Et il faut véritablement transformer la culture des entreprises. Notamment pour s'assurer de la pérennité des dispositifs qu'on met en place. Si on s'assure pas qu'il y ait une transmission, qu'il y a déjà une volonté au plus haut niveau de l'entreprise, de mettre en place des dispositifs éthiques, de lutter contre la corruption, mais aussi une transmission de ces valeurs au sein de l'entreprise, qui diffuse au sein de l'entreprise, on ne pourra pas avoir des mécanismes et des dispositifs qui fonctionnent. Prenons l'exemple de l'alerte éthique. Il ne s'agit pas uniquement, par exemple, d'évaluer le nombre d'alertes qu'on a reçues dans l'année, mais par exemple aussi le taux de confiance des collaborateurs dans le système de recueil des alertes en interne au sein de l'entreprise. Ouais. Et ça, ce sera un indicateur finalement un peu plus qui donnera quelques idées sur est-on suffisamment à l'aise, libre pour parler, a-t-on envie de le faire, est-ce que l'entreprise est talente sur ce sujet.
Prenons un exemple concret, Charles Duchesne. Une entreprise qui est soupçonnée de corruption, elle a la possibilité de signer avec le parquet, ce qu'on disait tout à l'heure, une convention judiciaire, elle reconnaît les faits, elle paye une amende, elle se met en conformité avec la loi, et là elle va pouvoir continuer à travailler pour conquérir des marchés publics, et si jamais elle ne le fait pas, c'est l'amende, c'est le chiffre d'affaires qui est impacté, enfin bon, les sanctions financières sont très lourdes. Il y a de plus en plus comme ça de possibilités de dialoguer avec des entreprises soupçonnées de corruption.
Bah écoutez, nous le souhaitons, parce qu'on disait tout à l'heure que notre espoir, c'est d'avoir des entreprises qui viennent s'auto-dénoncer, si vous voulez, pour solder de manière définitive leur passif.
Vous en avez beaucoup ?
Ah non, malheureusement, pour l'instant, non. Si vous voulez, ça rentre un peu dans les esprits, on en parle. Je me réjouis de voir qu'un certain nombre d'avocats et de compliance officers incite à ce type de mesures. Pour l'instant, je dois vous dire que la moisson est plutôt maigre, et je le regrette, parce que ceux qui font le choix de jouer, c'est-à-dire d'attendre de voir s'ils seront pris ou pas, risquent d'être pris par d'autres, et dès lors qu'ils n'auront pas fait de démarches spontanées pour révéler les faits, eh bien ils seront sanctionnés des peines les plus sévères, et peut-être même de peines qui ne seront pas des peines transactionnelles, c'est-à-dire que ça peut aussi avoir pour effet de leur interdire l'accès à certains marchés, et finalement, c'est ce que les entreprises craignent le plus, et elles ont raison. Puisque leur rôle, c'est quand même d'avoir une activité. C'est pas d'être mis sur la touche.
L'arsenal déployé en France, on l'a dit, vous le soulignez tout à l'heure, Lorraine Bounneau, donc tout s'accélère depuis quelques années, notamment. Enfin, on a quand même la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On a l'Agence française anticorruption. On a les parquets. On a le parquet national, le financier, on a TRACFIN. Est-ce qu'on pourrait pas tout coordonner quelque part? Est-ce que s'il manque pas une instance, j'allais dire centrale, qui coordonne tout? Est-ce que c'est pas trop éparpillé la lutte anticorruption en France?
Je crois, assurons-nous déjà que les dispositifs qui ont été adoptés se mettent en place et que les autorités qui ont été créées disposent des moyens nécessaires pour faire leur travail. Et puis aussi, ces autorités-là, elles n'ont pas les mêmes missions.
Si on
parle du parquet national financier, si
qui
on parle
réprime
de la PAC,
l'agence,
si on parle
elle apporte du conseil.
Voilà, ce sont pas les mêmes missions, ce ne sont pas les mêmes prérogatives. Donc mélanger tout ça dans une super instance, c'est peut-être pas forcément la bonne voie.
Alors, est-ce qu'on peut vaincre la corruption en France? Est-ce qu'il y a une réponse miracle? Oui, petit tour de table. Allez-y, Pierre-Antoine Badoz, chez Orange.
Alors, une réponse miracle, je ne pense pas. En revanche, je suis convaincu, et nous sommes convaincus chez Orange, que d'être une entreprise éthique, d'être une entreprise responsable, d'être une entreprise conforme, ça sera un avantage compétitif. Ça sera à moyen terme, mais on commence déjà à voir quelques exemples. Les grandes organisations internationales, notamment, quand elles font des appels d'offres pour leurs besoins télécom, demandent que l'entreprise, que l'opérateur fournisse la description de son programme,
le code,
de conformité. Et ça nous a permis de faire la différence.
Sur certains contrats.
Sur certains contrats.
Certains marchés. Donc, Christian Dargam, avocat.
Ça prend du temps, beaucoup de temps même, mais je pense qu'on peut avancer dans cette voie-là.
Lorraine Bounneau, Transparency.
Bon, on est aux prémices. Après, il n'y a pas un jour sans une actualité sur la lutte contre la corruption. Donc il y a encore du chemin à parcourir, très clairement, mais il faut véritablement transformer la culture dans les collectivités locales, dans les entreprises sur la lutte anticorruption.
Il y a encore beaucoup à faire du côté des collectivités locales.
Tout à fait.
Beaucoup. C'est un peu le point noir.
En tout cas, elles ne font pas l'objet de mesures de programmes de conformité, par exemple, comme la loi Sapin 2 en impose auprès des grandes entreprises. Ouais. Donc il y a en tout cas du chemin.
Encore certaines libertés. Allez, Charles Duchesne, pour terminer avec vous.
Notre ambition raisonnable n'est pas d'éradiquer la corruption, c'est de mettre en place des mécanismes de protection collective contre la corruption. On vend pas des casques en un mot, on vend des échafaudages aux entreprises, si vous voulez. Il faut qu'elles se mettent à l'abri des actions de corruption qui pourraient être concertées et qui pourraient relever d'une politique de l'entreprise. On se mettra évidemment jamais à l'abri d'actions isolées, même si on déploiera tous les efforts possibles pour essayer d'y mettre un terme. Juste un mot sur la question que vous avez posée tout à l'heure sur la multiplication des services. Certains ont effectivement des missions qui sont très différentes. Je pense notamment à la Haute Autorité. Mais entre l'Agence française anticorruption et le Parquet national des financiers et les parquets, il y a nécessité d'une grande coordination. Nous envisageons d'ailleurs la rédaction de lignes directrices communes, mais cette coordination, c'est à nous qu'il appartient de la mettre en œuvre. Si vous créez une structure de plus pour chapeauter les autres, vous créez finalement une couche de plus.
Bon, c'était pas une bonne idée.
Voilà.
Bon, je posais la question quand même, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'organismes. Merci à tous. Merci Charles Duchesne, directeur de cette toute nouvelle agence française anti-corruption. Merci à vous. Christian Dargham, avocat au barreau de Paris, Association Norton Rose Fulbright. Pierre-Antoine Badoz, le monsieur anti-corruption, le directeur de la conformité chez Orange. Et puis Lorraine Bounot, déléguée générale de Transparency International en France. Les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.